podcast.com. Essaye ça.
Pas tomber dans les marches. Faire attention dans les escaliers. Ça marche, ma nouvelle tune préférée. Allez voir ça, hein, c'est le mois de marche. On est la page aussi, faire attention dans les escaliers. Faire attention dans les marches, qu'elle s'appelle la page Facebook. Vous pouvez nous partager vos histoires. On est encore dans le mois de marche, mais on est aussi dans Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. Mon nom est Tommy Godette et je suis très content de piloter une équipage quand même assez nombreux ce soir. Mais avant d'aller leur dire salut, je veux qu'on constate que tout le monde ensemble, écoutez ça, ça c'est Soul Blazer. C'est un jeu très, très mésestimé du Super Nintendo. L'histoire est prenante, c'est vraiment très rare que je dise ça pour un jeu vidéo. Un petit peu à la top-down, là, comme Zelda, Link to the Past, tu délivres des animaux, des objets aussi des fois. C'est très prenant, un jeu très cute. La seule grosse déception, c'est le boss de la fin qui est sans dessin. Soul Blazer au Super Nintendo. Et puis, ben, pour meubler ça, hein, des humains à qui on va parler, des gens qui répondent, il y a Andy Jacques. Salut Andy.
Allô, allô, comment ça va?
Ben, ça va super bien. T'as survécu à participer à une toune pour raconter ton histoire, hein, tragique.
Ouais, ça a bien été. Ça a fait un succès instantané.
Ouais, c'est bon. C'est vraiment bon, ta toune, là.
Il a fallu que je me casse une épaule pour en arriver à ce produit-là, mais je suis quand même assez fier, là, 3 mois après. Là.
Un acteur de.
Accompli.
C'est ça, exactement. Sinon, ben, il y a Emmanuel qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir. Mais bonjour, encore, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez.
Qui entre-t-il, Monseigneur?
Mais tu sais ce qu'on dit, on ne peut pas faire de succès sans casser d'épaule.
C'est vrai. Ça donne à réfléchir. Et Jason Keys, qui est pas mal la personne qui a monté le show ce soir, si j'ai bien compris. Salut, Jason.
Hey, bonsoir. Après la carte de la semaine, on se plonge dans la nostalgie. On va regarder un magazine dueliste ensemble de l'hiver 96. Ça va être une expérience radiophonique particulière. Mais vous allez voir, vous allez suivre et on a beaucoup de potins reliés à ça. Ça promet.
Fait qu'on se lance,
c'est quoi? Mais non, j'ai un gros dossier pour toi, Tommy, avant.
On va écouter le beat à beau et mon actualité.
Ah oui, Tommy, là, cette semaine pour les M'actualités. Écoute, il était attendu depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il teasait. Chaque semaine, ils font une espèce de stream là, de Magic où est-ce qu'il parle un peu de tout n'importe quoi là, selon la semaine. Et puis, ça faisait longtemps que celui qui anime ça avait dit on va faire un stream sur l'économie de Magic, sur un state of the economy. Tu sais, comment que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, etc., etc. Se pencher sur les différents questionnements que les gens ont, puis on va avoir un Q&A, tout ça. Puis il a eu l'air de comme revenir un peu sur ses mots après avoir annoncé ça. Tu sais, comme ça va être un peu plus compliqué qu'on pensait. Finalement, ça a quand même été long.
Voyons donc, le gars, il est allé verser du gaz sur une rue.
Finalement, ça a été assez long avant que ça se passe et ça s'est finalement passé. C'était la semaine passée, jeudi, si ma mémoire est exacte. Écoute, je vais pas me prononcer sur la question tout de suite. Je vais vous exposer un peu tout ça. Puis après ça, on pourra peut-être y aller plus d'opinions là-dessus. L'économie d'Arena est généralement reconnue, je suis désolé de vous l'apprendre, comme une des pires parmi tous les jeux de ce type sur les internets, là, que ce soit Hearthstone, Legend of Runeterra, etc., etc. C'est reconnu assez généralement comme étant pas mal parmi les pires.
Ce que tu veux dire par économie, dire quoi, c'est ce qu'il faut.
C'est l'argent, oui. Ce que tu dois mettre dedans, l'argent que tu dois mettre dedans pour qu'est-ce que tu peux en obtenir, et puis c'est comment tout ça fonctionne. Donc, ça concerne les cartes en tant que telles, les gems, le gold, les récompenses, les Wildcards, etc., le Master Repass, toutes ces affaires-là, c'est tout. Ça participe tout de ce que j'appelle effectivement l'économie de Arena. Un des plus gros problèmes que les gens ont avec Arena, c'est que c'est pas efficace pour se construire des decks, d'ouvrir les paquets en essayant de trouver possiblement la carte dont tu as besoin. C'est un problème qui est un peu réglé par les wild cards, mais c'est vraiment, ça reste que ouvrir des paquets, ça coûte super cher, c'est pas efficace pour te faire un deck, mettons, défini. Pour vous donner un exemple, là, un deck spécifique comme un deck tier 1 là, que j'ai checké tantôt rapidement, ça prend comme 16 cartes rares juste pour ton mana base, une trentaine de rares pour le deck en tant que tel, puis une demi-douzaine de mythiques rares. Fait que je vous laisse imaginer combien de paquets ça vous prend pour ouvrir exactement celle-là. Ouais. Puis, tu as 4,2% de chance à chaque paquet d'avoir soit une rare ou mythique wildcard à la place de la rare ou de la mythique. Et en plus de ça, il y a comme une petite wheel là, qui se remplit au fur et à mesure que tu ouvres des paquets, ce qui fait que tu as une rare à toutes les 15 paquets puis une mythique à toutes les 30 paquets. Donc, c'est, mettons que c'est long et c'est pas super efficace comme méthode. Puis, c'est surtout aussi, puis ça, on va en reparler quand on va arriver sur le stream. Là, c'est, je pense que ça vient d'une façon différente que les joueurs et Wizards ont de penser à leur jeu, je pense. Il y a aussi le Vault là, qui va à travers tout ça, qui est comme une version obsolète de qui ont dit que c'était temporaire quand ça a commencé, là, qui est un truc secret, entre guillemets, qu'on sait pas trop comment ça marche, mais à chaque fois que tu ouvres des paquets, ça remplit ton Vault. Puis à chaque fois que tu pognes des doubles de cartes, ça remplit ton vault. Mettons que t'as déjà des uncommon, t'ouvres un paquet, les uncommon sont encore là, mais à la place de remplir ta collection de cartes que tu as déjà 4, ça arrête à 4, puis après ça, ben, ça s'en va dans ton vault, qui est calcul un peu
c'est comme un arcanique,
que tu remplis, ouais, c'est ça, mais c'est super long à remplir, puis quand tu l'ouvres finalement, tu as une mythique wildcard, deux rares, puis comme trois uncommon. Tu sais jamais vraiment c'est quoi ton progrès sur. Mais une fois de temps en temps, tu le vois puis qui pop en haut de ton écran. Ah, et ton vault qui est plein ouvre comme.
Moi je joue beaucoup.
Une poignée de wildcards.
Puis je mets beaucoup d'argent dans le jeu-là. Puis la quantité de points de mastery de set qu'on gagne est vraiment pas assez haute. Là. est vraiment, vraiment, vraiment pas assez haute. Là. C'est t'en pognes un par trois semaines à jouer trois heures par jour, ça n'a pas de crise de bon sens.
Yeah.
Ben, ça, c'est d'accord avec les analyses à date.
C'est des problèmes qui ont été aussi exacerbés par la montée de la popularité d'historique en commençant. Parce que là, la quantité de cartes, si tu voulais te lancer dans historique, est encore plus grande. Tu peux pas vraiment t'appuyer sur ta collection. Il faut vraiment que tu ailles chercher d'autres cartes, à moins que ça fasse depuis 3 ans que tu joues à Arena. Et encore plus avec Alchemy, qui sont des nouvelles cartes qui se rajoutent au format, que la seule façon de les avoir, c'est d'ouvrir des paquets très spécifiques qui sont identifiés Alchemy.
Donne notre argent.
Ben ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Il y en a d'autres qui chialent parce qu'il n'y a pas de système de dusting qui est dans les autres jeux de cartes, souvent dans ce genre-là. T'as un système où est-ce que tu peux, dans le fond, revendre tes cartes dont tu te sers pas pour avoir une ressource que tu pourrais transférer en cartes dont tu as besoin.
Un peu comme Hearthstone, dans le fond. Tu utilises des cristaux que tu
exactement.
Te débarrasses de cartes pour.
C'est ce qu'on appelle le dusting. C'est ce qu'ils disent. On n'a pas besoin de dusting parce qu'il y a le vault dont je viens de vous parler. C'est un système qui a ses propres problèmes. Là. Je ne me lancerai pas là-dedans là, aujourd'hui. Mais c'est une des griefs que les gens ont par rapport à l'économie d'Arena. Puis, il n'y a aussi pas vraiment de moyen de tester, à part à quelques événements particuliers, des fois, qui vont faire des All Access Event. Il n'y a pas vraiment de moyen de tester un deck comme ça, genre dans le vide, sans dépenser de l'argent pour essayer de le construire.
Mm. Peut-être que ça serait pas fait de faire des échanges entre joueurs aussi, ce serait cool.
Ça. Absolument. Ben, ça, c'est des. Ça cause d'autres problèmes. Ouais. Là, tu crées une vraie économie. Là. Tu fais pas juste une économie entre les joueurs puis la compagnie. Là, tu fais une économie entière avec les personnes, ce qui existe avec Magic en papier. Là, on s'entend. Fait que c'est souvent aussi, c'est ça. C'est le, t'as pas de retour sur ton investissement quand tu joues à Magic parce que si tu veux plus te servir de ton deck, tu veux pas le revendre comme tu ferais en papier. Je vais aller retourner au magasin, je vais aller le vendre, puis avec l'argent que je me fais, je vais peut-être m'acheter un deck de Commander, tu sais, ou des choses comme ça.
Que c'est illégal, hein, parce que moi, j'ai fait le service à la clientèle pour Pixeling, puis pour... Tu peux pas vendre ton compte à quelque chose, fait que probablement que c'est une extension de ça.
Absolument. Mais il pourrait avoir un système, là, ça s'est déjà vu dans dans Diablo 3 qui en fait partie. Ça n'a pas marché, mais un Auction House, il y a des jeux qui existent où est-ce que tu peux vendre
t'as ça
tes
dans objets. World of Warcraft avec des tokens.
Donc tout ça c'est un peu ce qui mettait la table pour le stream ben du chiolage qui ont
Magic est mort.
Ouais, Magic était très mort, qui ont plus ou moins adressé, on va se le dire là. Ils ont proposé quelques trucs. Ils ont dit on va faire ça, on va faire ça, on fait telle affaire. Vous allez voir à quoi c'est relié dans les problèmes que je viens d'énumérer. En résumé, ils ont annoncé qu'ils sortaient un nouveau paquet de cartes, les mythiques packs que tu pouvais ouvrir, qui sont garantis d'avoir une mythique à la place de la rare. C'est vrai, c'est comme une sur cinq, là, je me rappelle plus du ratio exactement, là, que tu devrais avoir une mythique à la place de la rare. Mais là, ce paquet-là, c'est juste une mythique. Fait que si jamais tu te chasses une mythique en particulier, ben, t'y restes ce paquet-là qui coûte 1300 gold à la place de 1000. Bon. Faites ce que vous voudrez.
Mais c'est-tu si rare que ça, les wildcards? Parce que me semble que j'en ai du chier.
Tommy, quand tu joues comme toi et moi, beaucoup de limited et pas beaucoup de constructed, les wildcards, tu t'en suces un peu.
Okay.
Si t'es quelqu'un qui joue standard, historique, constructed, ça te prend des wildcards, faire des decks. Puis ça revient aussi à ce que je disais tantôt entre l'inadéquation un peu entre ce que le monde pense de ce qu'ils veulent jouer à Magic, puis ce que Wizards pense que le monde pense qu'ils font pour jouer à Magic. Puis ça a été vraiment exposé très clairement dans le stream. Nous autres, on voudrait jouer plusieurs decks, on voudrait être capable d'alterner, puis même les systèmes de Daily Quest encouragent ça. Ils disent joue tant de cartes bleues aujourd'hui, joue tant de cartes rouges aujourd'hui. Si t'as juste un deck compétitif, c'est un peu plate. Après ça, tu vas te ramasser sur l'espèce de petit deck de Pauper pour essayer d'aller finir ta quest de cartes rouges ou whatever. Mais eux autres, dans leur tête, en tout cas, c'est ce qui est ressorti du stream, c'est que ce que les joueurs devraient faire ou ce qu'ils voudraient, ce qu'ils feraient, c'est qu'ils se font un deck, puis après ça, ils se construisent un deck, là, ils vont jusqu'à le but, le Graal, c'est ce deck-là, puis ils jouent avec. Puis that's it, puis ça finit là, puis tout le monde est content.
C'est ça que le monde font en majorité.
Non.
OK, ben ouais.
Non, c'est ce que dans ce qui ressortait des commentaires des deux personnes qui faisaient le stream, c'était un petit peu ça. Nous autres, notre objectif, c'est que le monde puisse faire ça. C'était pas axé pour collectionner, pour avoir 100% du set, puis tu te fais un ou peut-être un deuxième deck. Éventuellement, tu peux, quand tu commences à avoir un peu plus de collection, tu peux peut-être te lancer dans historique, mais tu commences avec standard parce que c'est plus facile. Des choses comme ça.
Oui, je me rappelle la première fois qu'on avait fait le premier tournoi qu'on avait fait sur Arena, les gens devaient nous envoyer le deck dans le fond qu'ils voulaient faire au lieu de juste qu'on fasse un draft puis qu'on prend le deck. Là. Puis moi, je me rappelle, c'est là que j'ai gaspillé toutes mes wildcards pour faire un deck.
Ça va vite.
Ouais.
Ça va vite. Donc ça, c'est le premier point qu'il avait amené. Ensuite, pour les wildcards, justement, on parle de la rareté des wildcards. Ils vont offrir un bundle de wildcards. Là, attends, Jason, toi, tu l'as écouté, fait que je vais pas prendre ta réponse. Mais je suis curieux d'avoir...
Je te laisse aller.
Je suis curieux de les gars. OK, dans le bundle, il va avoir 12 wildcards rares et 4 mythiques. OK? Combien vous seriez prêt à payer pour ça?
En gold.
2 piastres?
Non, en argent. En US dollars. 2 piastres?
Ben, non, c'est sûr que c'est pas ça, Andy. Voyons donc l'esprit de bottine. Moi, je serais pas capable. Sur Arena, en plus, ouais. Je serais prêt à 10 piastres. Là.
10 piastres?
Ouais, mais ça doit être 30, 40, 50. Là, ça.
Et voilà, tu l'as eu. C'est effectivement 50 US qui était le prix annoncé pour ce magnifique bundle. Ben du monde sont comme, OK, c'est une joke. Là, c'est juste pour voir à quel point ils peuvent aller.
Ouais, c'est ça, à quel point c'est une joke. Là, ouais,
Qui sait les whales?
50 beaux dollars pour 12 rares et 4 mythiques. Frank Carstein, qui est une personne assez connue de
le
Magic.
Le mathématicien de Magic
s'est amusé à faire les maths. Vous pourrez les faire de votre bord, là, mais avec lui, ça, avec ses calculs, 50 piastres, tu pouvais t'acheter le bundle un bundle de gems à 50 piastres que tu transfères straight en paquets. Puis c'était 46 paquets dans lesquels, en plus de toutes les cartes que tu as obtenues, tu avais les chances d'obtenir 3 mythiques wildcards puis 9 rares wildcards. Juste ce que tu as accumulé
plus,
avec...
cartes, puis voyons.
C'est déjà à peu près ça.
Et même, on pourrait faire le calcul inverse. Combien de cartes mythiques pour 50 piastres US, là, tu sais, pour que ça me tente, là? Moi, 50 piastres US virtuels comme ça, je me paye un set, genre, là. Tu sais, je me jette Kaldheim, le 50 piastres US, on n'en parle plus, fini, bâton, là, tu sais. Ça n'a pas de crise.
C'est assez intense. Quand tu regardes ça, c'est qu'est-ce que tu es prêt à mettre sur un jeu une fois, deux fois, trois fois,
quatre fois,
combien de fois? Ça, c'est...
Ouais, puis là, il faut que tu rentres là-dedans que, avec la rotation, il faut que tu t'en rachètes tout le temps.
Ben oui.
Parce que là, ton deck est aussitôt qu'un set rotted out, ton deck est plus bon. Fait que, faut que tu l'adaptes à la nouvelle méta. C'est un casino, Magic Arena.
Ils ont dit qu'il allait peut-être, je suis pas sûr encore, peut-être avoir une option de tester ses decks contre Sparky, là, le AI, là, que tu peux jouer des decks qui est pas super bon, mais ça te permet de faire du goldfish, là, dans le fond, ce qu'il appelle faire du goldfish, là, jouer contre un mur. Là. Ouais. Peut-être.
Peut-être si on est fin.
Sous toute réserve.
Si on achète assez de mythique à 50$.
Ben, c'est ça. Ils vont aussi changer. Il y a quelque chose qui existe là, que j'ai jamais fait. Il y a certains joueurs qui font. Il y a des events constructed que tu peux joiner qui sont un peu faits sur le même principe que des drafts. Là. Mettons, quand tu joins un event constructed avec un deck, tu peux te rendre jusqu'à 7 victoires puis 3 défaites. Le système de reward de ces events-là est complètement de la merde, là. C'est juste en gold.
C'est
juste en gold. Mais je pense pour des bons joueurs, c'est une bonne affaire pour faire un petit peu de gold. Ils vont revisiter ça un peu pour l'arrimer un peu plus à ce à quoi ça ressemble dans les events de Limited. Pour que les rewards ressemblent plus au draft et ces choses-là. Fait que ça serait plus des gems et des paquets de cartes. Fait que, bon, peut-être une façon de faire de l'argent dans le jeu. Ça reste à voir.
Pauvre, hein?
C'est ça.
Peut-être donner le goût d'essayer ces autres affaires-là aussi.
Ouais. Puis aussi pour se pencher sur le problème de Alchemie, le fait qu'il y a aussi beaucoup de monde qui chialait quand Alchemie est sortie. Pour les joueurs d'historique, leurs cartes qui avaient justement dépensé leur précieux wildcard pour faire devenaient modifiées à cause que c'était trop fort, mettons, dans le format standard. Ben, leurs cartes d'historique devenaient modifiées. Parce que, mais que ça n'avait pas rapport, puis il ne devrait pas, machin.
C'est moi, oh là.
Il a annoncé qu'il y aurait éventuellement un nouveau format qui serait comme il y a standard qui est collé sur le format tabletop, un format qui éternel là, qui serait collé sur le format tabletop. Oui. Est-ce que ce sera un nouveau historique ou c'est la voie vers Pioneer? Parce que on sait que c'est un des objectifs de Magic que d'amener Pioneer dans Arena. Peut-être.
Au lieu de OK, c'est beau, là une wild card, on va inventer tout un nouveau système pour pas qu'on vous redonne de l'argent.
Ils ont aussi dit que peut-être qu'ils allaient ramener les cartes à leur version originale une fois qu'ils soient rotationnés hors de standard, là. Une fois que leur run dans standard, parce qu'ils voulaient pas avoir la même carte qui est différente. Sur Arena, deux ans
dans Arena, puis on.
Ça chiale beaucoup, tu vas être correct. Kimi, j'ai remarqué là, cette semaine. Là.
Écoute.
Les gens sont pas.
C'est parce que le. Je t'ai énuméré un paquet de problèmes.
Oui.
Puis tout ce qu'ils ont fait avec ces problèmes-là, ils ont fait. Je penserais pas, non. Laissez-nous vous montrer comment ça va marcher. Ça, ils ont vraiment comme tout balayé du revers de la main. Ils ont fait, mais... Le vote, tu as parlé du vote?
Non, un peu, au début.
Pas mal leur seul moment qu'ils ont fait, qu'ils se sont fait poser une question sur le vote, ils ont dit, genre, oui, ça existe. ils n'ont pas de plan pour
nous le montrer, tu sais, de faire regarder comment tu sais.
Ça, c'est là pour rester, il n'y aura pas de dusting, ils l'ont dit. Mais attends, est-ce qu'on a fini le dossier? Parce que je veux finir ça là-dessus,
ben, c'est important. Oui. C'est toi qui le maîtrise, le dossier en ce moment.
Ah non, mais c'est le fun de discuter de l'économie d'Arena, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent fait. La dernière affaire, c'est très important. Tout le monde l'attendait depuis longtemps et je pense que Magic, grâce à ça, n'est pas encore mort cette semaine. Ils amènent dans Arena la fonction pour avoir des lands par défaut.
Pourquoi pas?
Quand t'es dans Arena, tu peux sélectionner, il y a genre 300 sortes de lands que tu peux avoir, mais c'est toujours la plus récente que t'as reçue qui est là. Puis là, si tu veux avoir tes belles lands que t'as achetées,
Moi, mon deck, il y a des cartes de Kaldheim. Je veux que mes swamps soient des swamps de Kaldheim.
Puis à chaque fois que je draft, je veux aller mettre les bonnes lands que j'ai qui me portent chance. Hein? Mais là, il faut que je le change à chaque fois parce que ils sont pas donnés de mettre une option de land par défaut. Écoute, mais là, ça s'en vient.
Ils ont mis un petit beau sur le Arena, parce que tout est réglé.
50% d'une game de Magic, t'attends que l'autre il prenne sa décision, t'as rien à faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les artworks de tes cartes. Fait que c'est important, le Basic Land.
On n'a clairement pas le même style de jeu, mais.
Puis on s'entend que la petite boucle, c'est quelque chose qui aurait dû être là depuis infini.
Oui, peut-être.
Ça fait des années.
Mais ça reste, une boucle sur quelque chose que t'es comme, hey, man, sérieux.
Il y a encore.
Jusqu'à maintenant, je ne vais pas réinstaller Arena encore.
Non,
je suis pas encore convaincu.
Je n'étais pas convaincu. Avec les default lands.
Ben, merci beaucoup, Emmanuel.
Écoute, ça fait plaisir. On attend vos commentaires sur le dossier
avec nous.
Commentaire
du show,
ben
oui, ben oui.
La mort de Magic, fait qu'on réécoute une tranche de beat à Emmanuel, puis ben c'est bon qu'il l'a fait, mais oui. C'est pour les émanes d'actualité.
Non, mais là, c'est le beat pour la carte de la semaine.
Le vrai beat, là, ouais.
On s'en va à la carte de la semaine. Tabarnak, c'est bon, ben. Ça va être un beat à bonde pareil, mais ça va être pour la carte de la semaine. Une présentation de l'adversaire, un 43-03 Sainte-Catherine-Est.
On est de retour à pleine capacité.
Pleine capacité.
Il y a le tournoi de Magic le 24 au soir.
Oh oui, encore. Je veux la carte de la semaine encore. Mais là, c'est Jason Schneider qui l'a sélectionnalisé.
Écoute, j'ai regardé mes dernières cartes de la semaine que j'avais prises, puis je prenais tout le temps des affaires, tu sais, comme en multiplayer, le fun.
Mm-hmm.
Des cartes gentilles, tu sais, des build around. Mm-hmm. Puis là, je me suis dit, pour faire un changement, tu sais, vu que c'est un peu la mort de Magic, le thème de notre épisode cette semaine, ben, j'ai pris de quoi que j'affectionne particulièrement beaucoup, mais que tous mes adversaires détestent profondément. C'est l'artefact darling de tout bon deck aggro qui se respecte. Le beau vieux Winter Orb. Vous voyez mon écran, oui?
Ben oui. Oh ouais. Oh ouais.
Winter Orb du set original, réimprimé jusqu'à la quatrième édition. Un artefact deux colorless. Simplement, ce qui se passe, c'est que tant que Winter Orb est on tap, tous les joueurs autour de la table peuvent seulement untapper un land à leur untap step. Donc, ça, c'est pourquoi on met ça dans des decks aggro. Eh bien, parce que tu veux. Moi, ce que j'aime beaucoup, là, c'est de les jouer dans des winnies vraiment rapides, là, par exemple. Eh là, oui, des green winnies.
Ça, Jason.
Non, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais. Je trouve que ça mérite sa place. Casting cost 1 ou 2, la plupart de tes cartes, tu sors ça rapidement, là, tour 1, tu mets une créature, tour 2, tu mets deux créatures. Et éventuellement, quand tu arrives à ton tour 3, t'envoies la Winter Orb. Si tu joues contre un deck de contrôle, il est fourré. Les gens sont souvent peu préparés pour Winter Orb. Ça fait vraiment des ravages. J'avais fait un petit vidéo l'année passée qui est sur notre YouTube de terrain basique.
La vidéo s'appelle. C'est le plus cruel du jeu. Ça.
Ouais, White Winnie avec Winter Orb, c'est bon en crise. C'est une vidéo de 15 minutes où je fais une bonne démonstration là, dans un deck de White Winnie. Avec des land tax, bien sûr, parce que ça fait un bon mix. Winter Orb, Land Tax. Donc, c'est ça. C'est une des cartes les plus cruelles. Moi, je la joue beaucoup.
J'ai eu des flashbacks d'horreur à regarder ton deck.
Non? Ah oui, c'est horrible, Winter Orb. Il n'y a rien de plus misérable là, que de sortir un Winter Orb. Il n'y a rien de plus misérable quand quelqu'un disenchante ton Winter Orb, mais tu en avais un nom dans la main que tu remets le tour suivant.
Le petit coquin.
Moi, j'en joue généralement 3 ou 4, là, sans aucun problème.
Ah, c'est toi hein, qui fais ça, ben oui.
Oh, ouais.
Dans ton Winnie blanc, là.
Ben, Winnie blanc, ben Winnie noir, ouais. Winnie vert, c'est n'importe quelle couleur. D'abord que tu as du casting cost de 1 ou 2. Dans des decks de burn en Legacy, là, Red Burn avec Winter Orb, bonne chance pour me taper. Moi, j'ai pas besoin de taper. Je sacrifie mes deux montagnes pour Fire Blast. Parce
que, quand même assez iconique de Mark Pedin. Comment ça va, ces affaires? Hein?
Ça va super bien. Ouais, c'est le genre de gros ours avec une espèce de orbe qui flotte. Ouais, c'est pas mal cool.
C'est
pas mal cool.
Ben, en tout cas, c'est si jamais vous avez trop d'amis qui viennent chez vous jouer à Magic, probablement qu'à sortir votre Winter Orb. Sinon, ben, nous, on a recommencé à jouer souvent les vendredis. On va sûrement jouer vendredi soir qui vient, si vous voulez. Écrivez-moi là-dessus. Merci pour la carte de la semaine, Jason. On va s'en aller vers notre activité de fin de show. Hein. Tu nous as préparé quelque chose de particulier. On écoute une tranche de Beat à Bone dans nos rengaines. Là, tu veux qu'on regarde une revue jadis?
Oui, il y a eu plus, tu sais, dans l'époque où Internet était l'âge de pierre de l'Internet, si tu voulais ton contenu Magic, hein, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de tout ce que. Fait que la seule place que tu pouvais lire à propos de Magic, c'était dans les magazines. Wizard of the Coast avait son magazine officiel qui était de duelistes, il en sortait 4 par année. Il y avait aussi, ensuite, il a sorti Scry. Le magazine Scry.
Scry, ouais.
Et je crois que lui, il était aussi 4 fois par année, mais je ne suis pas sûr. Don't quote me on that. Puis il y avait aussi aux États-Unis le Inquest.
Je me rappelle de ça.
Hein. En un temps aussi, le Beckett s'était ramassé avec un chroniqueur qui faisait des chroniques Magic.
Probablement. Puis en France, on salue nos amis français, on avait le Lotus Noir. Qui était du Magic français. Ces magazines-là sont disponibles sur l'excellent et pertinent Internet Archive.
Ah oui, des sites les plus importants.
Un des sites les plus importants dans la websphère.
Absolument.
Moi, j'ai passé. Il y a les 30 premiers magazines du Ellis. J'ai passé. L'année passée, j'avais fait ma série de vidéos, l'histoire de Magic the Gathering. J'avais passé à travers toute la gang. C'est vraiment décevant, honnêtement, là. Puis là, on va s'amuser à feuilleter rapidement. C'est surtout de la pub. On voit ici la pub du fameux jeu Killer Instinct.
On avait fait
un collectible card game. Parce qu'à l'époque, ils faisaient des collectible card games. Ça, c'est
by the way.
C'est le numéro 9. C'est hiver 96, donc on se repose à l'époque, hein, Bill Clinton était président. Écoute, c'est comme je dis, là, c'est surtout de la pub de d'autres jeux. Il y a peut-être un ou deux.
Pub de Illuminati, c'est un excellent jeu, ça.
C'est vrai. Compliqué, écoute, mais le fun.
Illuminati, New World Order.
Steve Jackson. C'est une expansion de Illuminati.
Ouais, c'est ça. Qui était un trading card game. Là. Fait que...
ouais.
On était si jeunes et si fous dans ce temps-là.
Si jeunes et si fous. T'as quelques. Oh. Tu sais, comme de insider, là, de tu sais, des analyses de quelles cartes vont être fortes, tout ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y avait pas vraiment de méta à l'époque qui était. Parce que le magazine, ça prenait 3 mois à sortir. ça, ici, on a. En fait, c'est la création du fameux Pro Tour. Oups, là. Excusez-moi, j'ai accroché le bouton. Le Pro Tour, on voit ici, là, il est annoncé comme The Black Lotus Pro Tour. Ça va être important pour la suite de ma chronique. Je vais en parler tout de suite. C'est qu'à l'époque, tu sais, Wizards of the Coast achète une façon de faire de l'argent. Ils disent, on va mettre des prix en argent, puis il va y avoir des gros tournois à travers les États-Unis. Fait qu'ils l'avaient annoncé, c'était les 6 premiers, là, New York, Los Angeles, Columbus, Seattle, Atlanta, Dallas. Puis là, fallait
que c'est pas Los Angeles, c'est Long Beach.
Ouais, mais Long Beach, c'est en bas.
Long Beach.
Long Beach, c'était sur le Queen Elizabeth, qui est un bateau, de paquebot qui est amarré là. Mais mon point, c'est que c'était pour attirer les gens dans des tournois, dans les magasins, des qualifiers, pour se qualifier pour le Pro Tour. Aussi, il y a beaucoup de gens. Tu sais, ils lançaient ça pour relancer Magic, pour faire du marketing, de créer une espèce de rêve. Que tu vas devenir toi aussi un pro player de Magic, mais pour ce faire, parce qu'ils ne voulaient pas que ces tournois-là soient dominés par les gens qui avaient des cartes depuis le début qui étaient trop fortes, les cartes là, de l'année 93-94, fait qu'ils avaient créé le type 2, qui est ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de standard. Fait que les Pro Tours étaient uniquement en format type 2. Donc, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de standard. Et beaucoup de gens avaient chiolé à l'époque. Ils avaient dit que ça allait tuer Magic parce que là, tu sais, nos vieilles cartes ne serviraient plus à rien. Tu peux plus les jouer. Puis,
qu'est-ce qu'on va faire?
Et j'ai des rotations. Pourquoi j'achèterais des nouvelles cartes si dans un an, je ne pourrais plus jouer avec? Ça va tuer.
J'achète toutes tes cartes. Toutes.
Fait qu'on voit un peu le où est-ce que vous allez. Excusez-moi, j'ai eu de la misère avec mon bouton cher. Donc, c'est ça. Fait On continue. Dans le magazine, là, je vais y aller rapidement. On voit ici l'excellent card game de Highlander. Hein, le film Highlander, il ne peut y en avoir qu'un. Ça donne le goût de dire ça.
The Monumental Expansion. Hey, hein.
Netrunner, qui est un autre jeu de cartes fait par Richard.
Ouais, je me rappelle de ça.
Ah, j'ai des cartes qui traînent de ça, je pense, à quelque part.
Oui, ça est devenu à mode. J'ai vu quelqu'un spender 200$ pour. Netrunner, il vient en bundle. Là. C'est pas comme des boosters comme Magic. Ah. C'est t'achètes la collection complète quand tu veux jouer avec. Là.
Non, moi, c'est quelqu'un qui m'a amené sa vieille boîte de cartes Magic. Il m'a dit, ah, tiens, tu prendras ça. Puis dedans, il y avait des.
Tu sais, t'as des cartes spotlight, là, comme là, ici, ils donnent des idées comme. Ça fait penser à notre carte de la semaine, là. Tu vois, ici, ils donnent des idées comment builder around a Dwarven Warrior.
Bonne idée.
Tu sais, puis comme. Là, leur principal problème, c'était que les magazines prennent trop de temps à sortir. Fait que. Ils étaient pas capables de suivre, là, les tournois, puis qu'est-ce qui était vraiment les cartes fortes, les cartes moins fortes. Ils pouvaient juste guesser. Mais vous voyez, là, c'est beaucoup de la pub. Il y a une variété de différents jeux. Là. C'est le fun de moi, je trouve ça drôle de feuilleter ça. Là. C'est vraiment
c'est quand même 140 pages. C'est pas pire brique.
Ouais. Ben non, c'est un magazine. Là, mais
140 pages, c'est un bon magazine.
C'est un magazine consistant.
Ça, c'est vraiment drôle. C'est le Choose Your Own Adventure. C'est qu'ils trouvaient que les gens avaient de la misère à comprendre c'est quoi Ouais, je me rappelle
de ça.
Les différentes phases de quand tu joues à Magic. Fait que là, ils ont mis ça comme un genre de tableau, c'est comme un genre de labyrinthe où tu rentres avec ton rat. Tu sais, puis là, ça dit comme is this the beginning of a phase? Yes or no? What does the active player do? Tu sais, an interrupt, play a land, announce attack. Ça a l'air, finalement, tu sais, on dirait que ça, c'est encore plus compliqué que c'est. Il n'y avait pas de stack à l'époque. Hein,
c'était une espèce de. Oui, oui, c'était une espèce de chart, là, quoi faire.
Ouais, c'était le first in, first out.
C'est un algorithme, là, c'est littéralement.
C'est un algorithme, mais comme tu regardes ça, c'est comme t'as plus le goût de jouer à Magic, là. C'est Magic, c'est mort.
Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je veux y arriver éventuellement, là, à notre dessert de la soirée. Où est-ce qu'il est? Parce que tu sais, il lançait dans ce magazine-là, le numéro 9, il lançait le Pro Tour, hein, que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, dans le fond, c'est le premier tournoi avec de l'argent. Et il y avait Spotlight on Chip Hogan. Chip Hogan, c'est un Texan qui, dans l'année d'avant, dans le fond, en 95, lui, ce gars-là, il aimait tellement Magic, il s'est dit « Moi, je vais vivre de Magic. »
Oh.
Là, à cette heure, on a reçu plein sur notre show là, des gens comme Raphaël Lévy qui ne vivent que de Magic. C'est leur job à temps plein. Mais là, il faut se mettre, on est à l'hiver 96. C'est du jamais vu, ça se peut pas, tu sais. Fait que là, ce gars-là, il raconte, pis c'est la raison pourquoi j'ai pris Winter Orb comme carte de la semaine. C'est son deck. Il faisait pendant l'année 95, il faisait la tournée à travers les États-Unis dans son char de les tournois
de tout le monde 1. Avec son deck de Winter Orb parle de là,
ouais. Puis il cherchait dans le fond les tournois qui avaient des prize pools en argent. Il se pointait pour gagner le tournoi, pour ramasser de l'argent pour pouvoir faire d'autres tournois de Magic. Donc, tu sais, puis le magazine le met vraiment là, comme un. Tu sais, on voit ici avec sa femme et son enfant, puis tu sais, c'est la grosse affaire. Puis là, c'est vraiment drôle parce que, tu sais, il parle de son parcours pendant l'année 95, à quel point il a torché. Il a fini premier dans le ça s'appelait le Sorcerer Open à Columbus en juillet 95. Mm. Il avait gagné un bon, je pense que c'était comme 10 000 $. Puis, tu sais, vraiment, ils en font comme un genre de role model. Là, de si vous faites le Pro Tour, voici celui que vous pouvez venir.
Voici le truc, ouais, c'est ça.
Chip Hogan, genre, tu sais, il a pas une vraie job. Sa vraie job, c'est il fait ce qu'il aime, il joue à Magic tout le temps. Puis là, juste pour le fun, là, je vous montre son deck. Là, ça, c'était son fameux parce que c'était le c'était pas encore le type 2 là, au moment où ce qu'ils ont fait sa pub avec lui. Fait que là, tu sais, il faisait les tournois de ce qu'on appelle aujourd'hui vintage. Là, fait que là, tu vois, là, c'est le Relic Barrier, les Winter Orb, le Mana Drain. C'est un deck de contrôle là, qui est de prison.
Si tu tapes ton propre Winter Orb, ben là, toi, tu peux untaper tes affaires. Ouais. Fait que là, tu peux y exploser dans sa face, c'est dégueulasse.
Fait que c'est ça, il joue le Relic Barrière, là, qui ça va très bien ensemble. Mais c'est pas de ça que je veux surtout vous parler. Je veux vous parler, en fait, de Chip Hogan. Je me suis dit, qu'est-ce qui est devenu ce gars-là? Parce que quand j'avais fait mes vidéos de l'histoire
où sont-ils rendus?
J'avais passé à travers toutes les top 8, puis après ce magazine-là, il a disparu. Il était plus dans les top 8. Fait que c'est-tu comme, genre, il était populaire, puis là, arrive le type 2, puis parce qu'il mentionne dans l'article...
Je sais pas, moi, c'est sûr, je sais pas.
Il mentionne dans l'article qu'il y a de la misère à s'adapter au type 2.
OK.
Il dit, il trouve ça vraiment plate que Wizard of the Coast, un peu comme nous, on chialait tantôt sur Arena. Mm. Il dit, voyons, ça a pas d'allure, le type 2, je suis pas habitué avec ces cartes-là, puis j'ai moins de succès. Mais tu sais, il dit, je vais m'y faire, là, je suis quand même... puisque Hogan se considère comme un joueur de type 1, blablabla.
C'est un one-trick pony, non?
Un one-trick pony, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il est devenu? Fait que je suis allé dans le forum Internet de l'époque, qui est sur...
What the fuck?
sur ce qu'on appelle les bulletin boards, les news groups de Google. C'est sur Google maintenant, mais ça ne l'était pas à l'époque. C'est rec.game.trading-cards.magic.strategy. Je vais mettre l'adresse dans le...
C'était les Usenet, c'est ça?
Oui, exactement. Ça, c'est le fun parce que tu peux les fouiller par date. Par exemple, on s'en va à l'année 96. Hein? tu te dis là.
Tu parles en 70, ben oui.
Oh, tu peux reculer.
Bon, mais ça n'existe pas des Usenet en 70.
Ça n'existe pas. C'est, tu y vas avec les dates. Puis, tu sais, mettons, je prends 97 mars. Puis, ce qu'on cherche chez Chip Hogan, là. Mm-hmm. Fait que j'ai trouvé comme les gens se mettent à parler de Chip Hogan. Je me suis dit que je veux trouver qu'est-ce que ce gars-là est devenu. Et tu trouves là, ça fait beaucoup penser à les commentaires sur Facebook. La façon dont c'est amanché, là. Mm-hmm. C'est des replies un par-dessus l'autre. Fait que si tu as lu, si tu es habitué à Facebook, tu vas te trouver là-dessus. Mm-hmm. Moi, la raison pourquoi je veux en parler, c'est que. Oh, je me rends compte, en fait, que Magic n'a pas si tant changé que ça dans la façon dont les gens en parlent.
Si tu me surprends pas là-dessus, Jason.
Es-tu en train de dire que les humains, c'est des humains tout le temps?
Oui.
Mais là, Chip Hogan, lui.
Ouais. Ben, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai cherché... J'ai réussi à reconstituer une chronologie de qu'est-ce qui est arrivé de Chip Hogan après qu'il a apparu dans le magazine Duelist. Puis là, parce que, tu sais, à l'époque... C'était le seul joueur de Magic que les gens parlaient parce qu'il n'y avait pas encore de pro player, tu sais.
Puis lui, c'est un père de famille. Là. S'il perd sa fille, il meurt de faim.
Ben c'est là, ça. Théorie, sa fille est à 34 années, là, aujourd'hui.
Qu'est-ce qui est devenu? Fait que j'ai trouvé les posts. Je les ai passés dans le Google Translate. Là. J'ai essayé de rester le plus fidèle possible au ton de le bulletin board. Et ce que je vous propose à Terrain Basique cette semaine, c'est qu'on va refaire la carrière de Chip Hogan selon le forum Internet.
Eh bien, on fait du théâtre.
On fait du théâtre. Donc, Tommy, toi, tu es le gars qui annonce, il y en a tout le temps sur les forums Internet, t'es celui qui dit, je vous l'avais dit, Magic est mort.
Je vais être bon.
Emmanuel, toi, ouais. T'es le juge factuel.
OK, c'est mes notes de juge, ça.
T'es très, très sérieux, là. Okay. Puis toi, Andy, t'es le gars qui prend plaisir au malheur des autres.
OK? I'm good. Let's go! Donc,
vas-y, Tommy. Dans le fond, vous allez voir, là, c'est important de dire la date.
Le nuage noir du type 2. Usenet, 27 mars 96. Il est temps pour les joueurs de type 1 de se lever, de s'unir et de défendre leur droit de jouer avec les cartes qu'ils ont, diantre. Les joueurs de type 1 ne devraient pas avoir à subir cette discrimination générale que beaucoup doivent endurer. Simplement à cause des gens qui se plaignent que les vieilles cartes sont pas disponibles ou coûtent trop cher.
Mimi.
Le type 1 a beaucoup d'avantages par rapport au type 2. La surprise, l'originalité, les thèmes de deck, les concepts de deck. Je sais de quoi je parle. Depuis le 1er janvier 96, j'ai participé à plus de 40 tournois de type 2. La tendance générale du jeu est toujours la même. Les decks sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de deck originaux, que des copies de ce qui est à la mode. Cela fait mal à Magic. Quelqu'un doit résoudre ce problème avant qu'il ne soit trop tard. Il faut des protos de format type 1. Joueur de type 1, debout et unissez-vous! Chris Otwell.
Ça, c'est le gars qui a signé. Next!
OK, fait que là, je suis froid.
Ouais. Toi, tu es le. En fait, c'est un extrait de l'article sur Chip Hogan.
C'est son article. Donc, février 96, extrait du magazine Duelliste numéro 9 à la page 86. Kelly Hogan expliquait à un écrivain d'un magazine de jeux vidéo pourquoi son mari ne pouvait pas venir au téléphone. Il était allé à Abilene, Texas, à 3 heures de route pour travailler sur des idées de construction de deck et ne serait pas de retour avant 5 jours. Lorsque je rappelle un mois plus tard, il n'est toujours pas là. Elle me dit qu'il est présentement en Alabama, jouant à Magic, en route pour un gros tournoi à New York. Voici Chip Hogan, joueur professionnel de Magic.
Pourquoi je suis sûr qu'ils sont séparés?
Parce que j'avais là.
C'est à ton tour, Andy.
On y va. Février 1996 sur Usenet. En passant, qu'est-il arrivé à Chip Hogan lors du Pro Tour New York? Il jouait un bon deck de bleu-blanc Millstone, mais il a perdu. J'espère qu'il a un autre plan que de vivre de Magic. Il va en avoir de besoin.
Oh non!
Premierville 96 sur Usenet. Toute cette idée de vivre du jeu, personne va vivre de Magic. Les gens qui font de l'argent, c'est Wizards of the Coast, les magasins qui ramassent des miettes. Mm. En 10 ans, ils vont être tous ces joueurs-là. Chip Hogan a quitté l'université pour jouer à Magic. Il y a même un enfant! Nous envoyons le mauvais message à notre jeunesse en mettant en valeur et en glorifiant ces fainéants.
Nos Magic enfants.
Ne deviendra jamais un spectacle comme le sport qui génère des revenus pour les joueurs.
C'est vrai.
Ce Pro Tour, là, cette nouvelle affaire, là, la nouveauté, là, les gens vont y aller, mais dans 3 ans, j'ai pas l'impression que ça va être là encore. Ne vous méprenez pas, j'adore le jeu. Mais je pense que certaines personnes ont franchi la frontière entre le fantasme et la réalité et finiront par perdre la carte. C'est signé Kurt.
8 avril. Quelle carte? Ouais, c'est ça. 8 avril 1996 sur Usenet. Chip Hogan a encore perdu contre un deck de nécro. Chaque fois que je vois le nom de Chip, c'est pour me faire raconter comment il a perdu. Un mec sans souci pour le bien-être de sa famille, parce que le magazine Duelist a écrit un article sur lui. Quel gagnant! Signé Dan O'Leary. Vas-y, mon Tom, t'es capable.
Ah ben oui, hein? 14 avril 96 sur Usenet. J'ai croisé Chip l'année dernière au tournoi d'Origin. Tout allait pour le mieux. Puis il a décidé qu'il pouvait soutenir sa famille en jouant seulement à Magic. Il a échoué. Elle l'a quitté. Il continue de se promener à travers les pays dans son char à la recherche de tournois. Je sais parce que je l'ai croisé à New York dans un tournoi type 2 où il s'est fait battre. Il nous a vendu des cartes pour vraiment pas cher. C'est tellement triste.
C'est vraiment
triste. C'est Scott Landis.
Vous avez rien vu, là. Là, on est dans la partie triste de l'histoire.
26 avril 1996 sur Usenet. Veuillez excuser cette publication, il s'agit d'une question d'urgence. Chip Hogan a besoin d'un avocat dans l'État de Washington pour une poursuite au civil.
Ah, non.
Si vous êtes un tel individu, veuillez contacter Chip sur son Padget au numéro indiqué. Composez votre numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional, suivi d'étoile 99, c'est urgent. Signé Rudy Edward.
Pour les enfants à la maison, un Padget, c'était comme une petite boîte en plastique qu'on pouvait recevoir des appels, mais juste on voyait un numéro de téléphone à
rappeler. Ouais, puis là, après ça, tu pouvais le rappeler sur ton téléphone, peu importe.
Ben, tu n'avais pas vraiment de téléphone, il fallait que tu ailles sur une cabine.
Ouais, c'est ça.
Une cabine téléphonique, là, c'est comme un téléphone, mais c'est attaché à faire.
Fixe, ça, quelque part. Dans la rue. J'en ai encore une au coin de ma rue, mine de rien.
Ah ouais, hein? Ouais, ça existe encore, ça?
Ouais. 26 avril 1996 sur Usenet. Voici ce qui s'est passé le 13 avril dernier. Chip jouait dans un match de qualification du Pro Tour. Il a battu David Mills en demi-finale, ce qui lui assurait une place vers le Pro Tour Los Angeles. Mais les juges ont ensuite découvert que dans un match précédent, il a offert à son adversaire 2 de ses doubles LAN bêta en échange qu'il le laisse gagner. Son adversaire a accepté, mais il y avait des gens autour qui ont vu ça et se sont offusqués. Le juge en chef, Jason Carl, a disqualifié Chip Hogan pour ce tournoi. Il ne pourra pas aller au Pro Tour. Il a perdu son double LAN. Signé.
18 novembre 1996 sur Usenet. Bonjour à tous. Ce week-end, j'étais juge au tournoi de qualification pour le Pro Tour Dallas. Le format était Ice Age construit. Des gens ont été témoins de Chip Hogan trichant à nouveau. Voici ce qui s'est passé. Chip jouait un deck rouge. Son adversaire jouait un deck bleu-noir avec Infernal Darkness, qui était très populaire ce week-end. Infernal Darkness, c'est 2 noirs, 2 colorless, un enchantement avec un cumulative upkeep de 1 noir et 1 de vie, qui fait que toutes les laines produisant du mana produisent du noir à la place de leur mana normal. C'est comme un espèce de Blood Moon.
Ouais, c'est ça.
Donc, l'adversaire a joué un Infernal Darkness, puis a passé le tour. Chip a ensuite déposé une montagne et a dit à son adversaire que la vitesse de la source de mana qui entre en jeu lui permettait d'avoir un mana rouge avant que l'Infernal Darkness envahisse la montagne.
Non.
On est dans le lore rattrape le jeu. Chip s'est servi de cette mana rouge pour lancer un Lava Burst létal sur son adversaire et remporter le match. Je revenais alors de déjeuner pour constater un bruyant tumulte dans la salle du tournoi. Après 10 minutes de discussion entre les juges, le score du match a été annulé. Chip a combattu cette décision et réclamait un remboursement d'argent pour son vol en provenance de la Floride. Il était extrêmement impoli, mais le juge en chef a été très indulgent avec lui. Chip a finalement terminé la journée loin du top 8, mais son adversaire, un gars très sympa de Détroit, qui avait conduit 19 heures pour venir jusqu'ici, n'a pas fait le top 8. Son score était 4 victoires, une défaite, 2 nuls. Sa deuxième nulle était le match contre Chip. Sans cette deuxième nulle, il aurait classé 7e ou 8e avec une bonne chance de passer en finale. Il aurait ainsi pu se qualifier car ce tournoi donnait des places pour le Pro Tour aux 4 meilleurs joueurs. C'est très navrant. Signé Tim Watts.
C'est vrai que c'est très navrant.
Plutôt navrant.
Hey, 23 juillet 97, là, la gang, là, faites vos recherches. Checkez ce qui est écrit à propos de chaque champion gagnant d'un Pro Tour. Presque que chaque gagnant est traité de tricheur. Moi, je vous le dis, de première main, il faut beaucoup de travail pour gagner. Les dernières années, je jouais 40 heures semaine, je passais mes soirées à réfléchir à Magic. Je vivais de Magic. C'était drainant. Aucun joueur peut atteindre le sommet uniquement en trichant. Tricher peut aider. Cela peut faire de vous un joueur légèrement meilleur. Mais c'est pas suffisant. Trichez pas pour de l'argent. Vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent en étant un escroc, un vendeur de voitures d'occasion ou un simple braqueur de banque. Ne trichez pas pour le prestige. J'estime. L'estime ou le respect. Vous perdrez les trois lorsqu'on découvre que vous avez triché. Et c'est signé Chip Hogan.
Lui-même.
Et le 27 septembre 2018 sur Twitter.
Oh boy, on vient de faire un saut. Hein?
Oui, oui, oui.
Après plus de 15 ans d'absence de Magic, j'ai installé MTG Online il y a 2 jours. Aurais-je dû attendre la sortie d'Arena? Quand j'ai commencé à jouer à MTG, il y avait 450 cartes uniques de Beta, Arabian Nights et Antiquities. Il a fallu du temps pour apprendre les cartes et les combinaisons. Combien il y a de cartes dans le format standard actuel? Pour un noob comme moi, la courbe d'apprentissage doit être raide. Je suis débordé. 10 octobre 2018 sur Twitter. Cher Valve, je suis le premier joueur professionnel de Magic. MTG est le premier jeu de cartes et je suis le premier pro de ce genre de jeu. Merci de m'ajouter dans vos joueurs du bêta fermé pour que je puisse soutenir le succès de vos nouveaux jeux. Votre bourse de 1 million de dollars est également attrayante. Merci. C'est signé.
Ouais.
Chip Hogan.
At de Chip Hogan.
Ouais,
at de Chip Hogan. Fait qu'il essayait de rentrer dans Artefact. Crazy
ouais.
Bonne idée, ça.
Oui, ça. Mais il n'y a, a plus de trace après ça. Il y a comme son message en 97 qui dit son genre de mea culpa de tout ouais. Faire. Puis j'ai fouillé Facebook, j'ai fouillé partout, il n'y a rien à part les 2 tweets que Tony vous a mis à la fin. Je suis pas, tu sais, comme il fait un peu ce comeback, là, la façon dont on en a parlé, que tu mets tous les morceaux ensemble, mais en même temps, je me mets dans ses culottes à lui.
Ouais.
Il s'est un peu fait attraper par. Tu sais, je veux dire, tu te mets à l'époque, là, tu commences à jouer à Magic, là, tu commences à faire de l'argent en jouant à Magic, puis là, la compagnie qui fait le jeu, que t'es comme obsédé, te vient de dire comme OK, t'es maintenant comme notre. Notre Rocky.
Mais il a vraiment acheté le rêve que Magic essayait de lui vendre. Là,
exactement.
Il est devenu
exactement.
Comme l'espèce de mascotte de ce rêve-là que Wizard Magic voulait essayer de vendre à leurs joueurs.
Puis là, on voit. Moi, je ne considère pas Chip Hogan comme un vilain.
Non.
Je ne veux pas dire une victime parce que ça serait le diminuer, mais quasiment. Là, c'est que.
C'est un personnage tragique.
Tragique. Voilà.
Il en a fait
pathétique.
Une
masque. Personnage pathétique, ouais.
Ils en ont fait une mascotte, puis il a comme joué le jeu dans ça, mais là il s'est rendu compte parce qu'on avait changé le format, il était plus bon. T'sais, au début, c'était ça, là, c'est il perd tout le temps, à chaque fois que je vois son nom, il perd. T'sais, les gens demandent des infos sur lui parce qu'il est censé être bon, c'est censé être comme le top player. T'sais.
Faut qu'il nous reste sa fille.
Puis le
Storm.
Puis là, ben, c'est qu'il est plus capable d'être bon, fait qu'est-ce qu'il fait? Ben, il triche.
Ben, c'est parce que sa fille, elle mangeait plus. Fait que la pression était trop haute.
Non, je pense qu'elle avait crissé son camp depuis un bout.
Elle mangeait, là.
Sa fille s'appelle Storm. En passant, sa fille s'appelle Storm. Fait que c'est Storm Hogan. Oui, c'est écrit.
Hey, c'est quand même cool, Storm Hogan.
Mais c'est vraiment pas pire.
Bien classé sur l'échelle de Storm.
C'est comme si, ouais, c'est comme si tu étais en train de dire que ta fille va être dans G.I. Joe, peu importe ce qu'elle veut faire. Là, c'est... hey, merci beaucoup, Jason. Ça nous amène à la fin de ce terrain basique. Si je lis la room. Là.
Oui.
Merci tout le monde. Merci, Andy. C'était ta tour pour les escaliers, en tout cas. Là, c'est ma préférée. C'est vraiment touchant. Je suis content que tu aies guéri. Là,
je suis capable de faire ça à cette heure.
C'est une nette amélioration.
Ben oui, merci beaucoup, Emmanuel.
Plaisir.
Pour avoir encore une fois chanté l'eulogie de Magic, hein, qui est encore une fois décédé.
Adieu, le coq.
Merci pour tes bons services. Et merci, Jason. C'était très plaisant, ce retour dans le passé. J'ai été un champion de Magic pendant un instant. Je me sens quand même assez capable. Bon, merci aussi l'adversaire 4303 Sainte-Catherine-Est. Un gros merci à Martin Godette qui va s'occuper du montage. Podcast.com, Radio H2O. On est disponible sur Spotify. Et mon nom est Tommy Godette. Et comme à chaque semaine, depuis presque 180 épisodes, je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascrou possible.
Membre de la famille H2O Web Media.